Bonjour à tous les Auroviliens. Alors, je souhaite à tous les Auroviliens, à Auroville, à l'Ashram, en Inde et dans le monde, une très, très, très belle fête d'Auroville. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire le chant 2, l'enjeu. Et cette septième terre, la nôtre, s'est allumée une fois de plus pour quel défi ou quel désastre encore. Un temps retiré dans les domaines secrets de sa pensée, Savitri voyageait dans un passé comblé d'images qui vivait encore et voyait sa fin approchée. Éteint, il vivait impérissablement en elle. Passager et enfui, des yeux passagers, invisible tel un revenant fatidique d'elle-même, il portait l'avenir sur sa poitrine fantôme. Loin derrière, sur la piste des événements fugitifs, le torrent des heures intenses remontait, tandis qu'au bord de ce flot mystérieux peuplé de formes bien-aimées qu'elle ne voyait plus maintenant et d'images subtiles des choses qui furent. Son esprit, témoin debout, examinait le temps, tout ce qu'elle avait espéré, rêvé, était autrefois. Volée devant elle sur ses ailes d'aigle par les cieux de la mémoire, comme dans une aube intérieure aux flammes polychromes. Les grandes routes de sa vie et ses sentiers doux étalaient leurs cartes sous sa vision solaire exacte. Depuis le pays lumineux des jours de son enfance et les montagnes bleues de son envol d'adolescente et les petits bois de paradis et les ailes de pan de l'amour jusqu'à cette joie déchirée sous l'ombre silencieuse de la mort. Dans un dernier tournant où le ciel faisait sa course avec l'enfer, 12 mois passionnés conduisaient à un jour du destin. Une obscurité tombe sur l'homme, surnaturel, absolu. Parfois, lorsqu'il s'approche de Dieu, une heure vient où manquent tous les moyens de la nature. Tiré de force de son ignorance protectrice et jeté nu sur son besoin primordial, il doit enfin dépouiller son âme apparente pour être l'entité intérieure sans vêtements. Cette heure-là maintenant tombait sur Savitri. Elle touchait ce point où la vie doit être vaine, ou bien consciente de son élément éternel, sa volonté doit révoquer la destinée de son corps, car seul le pouvoir sentant de l'esprit, sans naissance, peut lever le joug imposé par l'enfantement dans le temps. Seul l'être qui taille cette image d'être peut payer l'interminable ligne fatale qui joint ses noms changeants, ses vies sans nombre, ses nouvelles personnes amnésiques et garde toujours tapis derrière nos actes conscients la piste de vieilles pensées et des actes oubliés. Seul, il peut refuser l'héritage de nos mois enterrés. Cet accablant legs de nos formes évanouies, aveuglément acceptées par le corps et par l'âme. Tel un épisode dans un conte immémoré, le commencement perdu, le motif et la transe cachée, une histoire autrefois vivante a préparé et fait notre fatalité présente, enfant des énergies passées. La fixité des séquences cosmiques, rivée par d'impétueux chaînons cachés, elle doit les briser, déracinée par la force de son âme, son passé, cette barrière sur la route de l'immortel, faire table rase et façonner à neuf son destin. Ce colloque des dieux originels qui se font face aux lisières de l'inconnu, ce débat de son âme avec le néant incarné doit se livrer corps à corps sur un dangereux fond sombre. Son être doit affronter sa cause première et contre l'univers peser son moi tout seul. Sur un pic nu où l'être est seul avec le rien, où la vie n'a pas de sens et l'amour n'a pas de place pour se tenir, elle doit plaider sa cause au bord de l'extinction, dans le tombeau de la mort du monde, défendre le cri abandonné de la vie et faire valoir son droit d'être. Et faire valoir son droit à être et à aimer. Il faut transformer la dure économie de la nature. L'acquittement de son esclavage passé, elle doit l'obtenir, liquider un vieux compte de souffrance, rayer du temps cette longue dette, multiplier de l'âme et les lourdes servitudes des dieux du karma. Karma, conséquence des actes passés, spécialement dans les vies passées. C'est ce que décrit Sri Aurobindo. Et la terre, vengeance de la loi sans pardon, et la profonde nécessité de la douleur universelle, et le cruel sacrifice et les conséquences tragiques. La muraille immémoriale, elle doit la briser. Percé par les abîmes de sa pensée, le monstrueux silence du vide. Regarder dans les yeux déserts de la mort immortelle, et par son esprit nu, mesurer la nuit, de l'infini. Le grand moment de la douleur était proche, maintenant. Tel un bataillon cuirassé, marchant à sa destruction, les longs jours passés à une lourde cadence, long, mais trop vite passé, trop proche, la fin. Seul, parmi les nombreux visages aimés, conscients parmi l'ignorance des cœurs heureux, son esprit indomptable comptait les heures à l'écoute du formidable pas prévu dans la beauté cachée d'une retraite sauvage et sans homme. Combattante dans le silence d'une redoutable lice, à l'insu du monde, elle se battait pour le monde. Nulle aide n'était là, sauf la puissance dedans. Nul témoin aux yeux terrestres, les dieux en haut et la nature seule en bas étaient les spectateurs de ce formidable combat. Autour d'elle, les austères collines pointaient vers le ciel et les vastes forêts vertes, bruissantes et pensives, murmuraient sans fin leur sourde incantation. Une somptueuse vie dense, colorée, enveloppée d'elle-même, drapées dans ses feuilles de vive émeraude monochrome, serties de rayons du soleil vagabond et de fleurs heureuses, cloîtrait la scène solitaire de sa destinée. Là, elle avait grandi à la taille de son esprit. Le génie des silences de Titan avait trempé son âme dans un vaste esseulement, lui montrant la réalité nue de son être et l'unissant au monde alentour. La solitude grandissait ses heures humaines sur un fond de l'éternel et de l'unique. Une force de sombre, sobre nécessité directe réduisait la lourde fabrique des jours humains et sa masse encombrante de besoins extérieurs à un premier mince lambeau de nécessités animales et la puissante immensité de la terre primordiale et la songeuse multitude des arbres patients et la tranquille rêverie du ciel séraphirien et la solennelle majesté des lents mois passés laissant une place profonde en elle pour la pensée et pour Dieu. Là, se vivait le radieux prologue de son drame, un lieu pour la marche de l'éternel sur la terre reposant dans la ferveur claustrale des forêts et regardé par l'aspiration des pics une clairière par une trouée d'or dans le temps où le silence à l'écoute sentait le mot sans parole. Et les heures oubliées de passer vers le chagrin et le changement. Là, avec la soudaineté des événements divins, répétant la merveille de la première descente et changeant en ravissement la terne routine de la terre, l'amour vint à elle, cachant l'ombre, la mort. En elle, elle pouvait assurément trouver son parfait sanctuaire. Depuis que l'être terrestre a commencé sa poussée vers les cieux, à travers toute la longue épreuve de l'espèce, jamais créature plus rare n'avait supporté pareil feu. Ce test brûlant de la divinité dans notre matière. La foudre des sommets sur notre abîme, tout en elle portait le signe d'une espèce plus noble, proche des étendues de la terre, intime avec les cieux. Altier et rapide, son jeune esprit aux larges visions, voyageant par des mondes de splendeur calme, voler par-dessus les chemins de la pensée vers les choses jamais nées. Inébranlable était sa volonté, ardente et bien posée, son mental une mer blanche de sincérité, passionné dans sa coulée sans une vague trouble, telle une prêtresse des extases immaculées. Dans sa danse aux énergies mystiques, inspirée émue par les cryptes de la vérité révélatrice et qui réside dans l'antre prophétique des dieux, son cœur de silence dans les mains de la joie, habité de ses battements créateurs inépuisables, un corps comme une parabole de l'aurore, qui semblait un réceptacle de la divinité voilée ou une porte du temple d'or sur les choses de l'au-delà. des rythmes immortels scandaient ses pas dans le temps. Son regard, son sourire éveillaient un sens céleste, même dans cette substance terrestre, et leur félicité intense faisait couler sur les vies humaines une divine beauté. Un vaste don de soi était sa marque innée. La magnanimité, comme de la mer ou du ciel, enveloppait dans sa grandeur tout ce qui vient et donnait le sens d'un monde élargi. Sa tendre sollicitude était un doux soleil tempéré. Sa haute passion est l'équilibre d'un ciel bleu. Comme un oiseau ou une âme qui s'envole, poursuivi, les ailes fatiguées s'échappant d'un mont de tempête, il se souvient et retrouve une poitrine tranquille dans un havre lisse et somptueux de repos protégé. On pouvait boire la vie encore dans une rivière de douceur forte, retrouver l'habitude perdue d'être heureux, sentir l'air radieux de sa nature de lumière et la joie baignée dans la tendresse de son royaume. Une compassion insondable, un sanctuaire de silence, son aide intérieure débarrassée, une porte dans les cieux. L'amour en elle était plus vaste que l'univers. Le monde entier pouvait trouver refuge dans son seul cœur. La grande divinité, insatisfaite, pouvait demeurer là, vide du petit moine, dans son air emprisonné. La nature de Savitri pouvait abriter le sublime souffle spirituel qui peut rendre toute chose divine. À la fois, elle était l'immobilité et le mot, un continent de paix radiante, un océan de feu vierge et sans frisson, la force et le silence des dieux étaient siens. En elle, il retrouvait une vastitude comme la sienne. Il retrouvait son haut éther ardent et se mouvait en elle dans sa maison naturelle. En elle, il rencontrait sa propre éternité. Savitri, l'enjeu, livre 1. Chant 2 de Sri Aurobindo. Introduction et traduction de Satprem. Thank you, Priya. Je remercie Sri Aurobindo et Mère pour cette sublime lecture de Savitri. Ganga Lakshmi, House of Mother Ajanda, Savitri, Bhavan. Thank you, Priya.
Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville, la ville internationale in India.